Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors, c'est pour bientôt vous propose un nouvel épisode tous les mercredis et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes et qui contribue ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un parcours original puisqu'il ne s'agit pas de PMA. Enfin, presque, mais pas complètement. Il s'agit véritablement d'accompagnement à la procréation naturelle. Il y a quelques semaines, je vous demandais sur Instagram si vous aviez déjà entendu parler de la naprotechnologie. Et en fait, 73% d'entre vous ne connaissaient même pas le terme. Je dois l'avouer, d'ailleurs, j'ignorais moi-même tout sur cette technique il y a encore quelques semaines. La naprotechnologie est en fait l'abréviation de Natural Procreative Technology, donc procréation naturelle médicalement assistée. C'est donc une aide médicale pour favoriser une conception naturelle avec un accompagnement personnalisé. Et je suis très heureuse que ce soit mon invitée Claire qui nous rejoigne aujourd'hui dans un nouvel épisode pour nous raconter son parcours en napro pour tomber enceinte et rencontrer sa jolie Bertie. Allez, sans plus attendre, voici ma rencontre avec Claire. Bonjour Claire, bienvenue sur le podcast.
Bonjour, merci.
Avec plaisir, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, de raconter ton parcours, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire un petit peu d'où est-ce que tu nous parles en France, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie?
Bien sûr, alors je m'appelle Claire, j'ai 37 ans, bientôt, à la fin du mois. Je suis illustratrice surtout et graphiste un peu aussi et j'habite à Paris. Voilà, je suis mariée depuis 2012 avec un mec canon évidemment et hyper sympa et que j'appelle d'ailleurs parce que je fais plein de petits dessins sur les réseaux sociaux aussi pour me promouvoir et que j'appelle le blond partout. Voilà, parce qu'il est très blond.
D'accord.
J'ai à le dire.
Et voilà,
et j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi. Qui s'appelle Bertie. Voilà.
Oh, c'est trop mignon. Ok, super. Alors, on s'est rencontrés, en fait, moi, je suis rentrée en contact avec toi il y a un peu plus d'un an, où tu fais donc effectivement des super illustrations. Et depuis, j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre ton travail. Et j'ai découvert, il y a quelques semaines, que en fait, tu préparais une BD qui allait bientôt sortir sur ton parcours de PMA. Alors, en tant que grande fan de BD et... en ayant lancé ce podcast, ça me semblait sacrément à point nommé en fait qu'on se parle. Donc merci de venir nous raconter un peu ce projet. On va rentrer donc dans le détail de ton parcours. Avant tout ça, est-ce que tu veux nous dire quelques mots de ton projet BD?
Alors effectivement, ça s'appelle un roman graphique. C'est le terme très stylé pour dire BD. Du coup, qui raconte notre parcours pour arriver à concevoir notre fille. Et alors, ce que je tiens à dire, c'est que on n'est pas passé par la PMA, justement. On est passé par un parcours qui est beaucoup moins connu. Ça s'appelle la naprotechnologie. Alors, je suis pas une spécialiste, hein. Je dirais peut-être des erreurs. Donc, je préfère prévenir. Voilà. Et la BD, effectivement, pareil. J'en parle en disant que, voilà, je raconte ce que nous on a vécu. Donc il y a pas de voilà que les gens s'offusquent pas si je dis des trucs qui sont pas techniquement ou scientifiquement, j'en sais rien, pile poil, je raconte ce que moi j'ai vécu et ce que mon mari a vécu aussi et voilà. Mm-hmm. Et du coup le tout avec beaucoup d'humour parce que même si c'est un parcours où on en chie bien, je trouve que c'est hyper important de garder le cap et puis je voulais aussi du coup partager à tous les gens qui n'ont pas la même tu vois comme toi qui n'ont pas la même aptitude à parler à dire aux autres, je voulais vraiment que ce soit un outil aussi pour montrer à tous les gens qui ne sont pas passés par là que oui on rigole mais c'est pas si drôle que ça en fait de faire un bébé.
Ouais.
Enfin, pour certains.
C'est clair. Voilà. C'est clair. Et alors justement donc c'est quoi le titre, tu peux nous le dire déjà ou c'est encore top secret?
Non je l'ai déjà posté de toute façon. Alors le titre c'est Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, 3 petits points ou pas. Voilà.
Bien, ça annonce la couleur.
Ah,
Super. Et alors, du coup, on en parlait juste avant de lancer l'épisode. Tu sais pas encore exactement quand la publication est prévue, c'est ça?
Alors, en fait, je sais. Logiquement, c'est le 10 avril que ça sort en librairie et un peu partout. Le problème, c'est vu le contexte actuel, je ne sais pas si l'éditeur va décaler ou pas. J'en sais absolument rien. Pour l'instant, j'ai pas une nouvelle. Pour l'instant, c'est toujours parti pour le 10 avril. Mais bon, on n'est pas à l'abri que voilà. Donc
très bien. Moi, tu me diras et puis je pourrais ajouter ça dans les notes du podcast ou si jamais ça change.
Avec plaisir.
Bon, très bien. Alors donc du coup parlons un petit peu de ton parcours. Donc quand est-ce que vous avez décidé donc avec Leblon en 2012 où vous êtes mariés, quand est-ce que vous avez décidé que vous étiez prêt à agrandir votre famille?
Alors en fait, quand on s'est mariés, on s'est dit au tout début, parce qu'on était séparés juste avant, une année avant notre mariage, on s'était dit tiens, on va en profiter, on va passer un an ensemble. Puis en fait, assez rapidement, on s'est dit en fait, pourquoi s'emmerder, on en a envie maintenant, allez go, on y va, sans filet, grosso modo.
Ouais.
Mais on n'était pas stressé, on s'est dit voilà, on se prend pas la tête, mais bon, voilà, go, si un bébé qui arrive, ce serait avec joie.
Ok.
Voilà, donc vraiment...
Très bien.
Oh, c'est 2-3-4 mois après qu'on soit mariés, un truc comme ça, enfin vraiment.
D'accord. Ouais, donc assez rapidement, super. Et alors du coup, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que, voilà, vous essayez? J'imagine du coup que ça ne arrive pas comme vous le souhaitiez. Est-ce que tu peux nous raconter un peu?
Alors pour la petite histoire, il se trouve qu'en fait je me suis mariée, j'avais 29 ans. J'ai eu malheureusement énormément de cas de personnes qui ont galéré à avoir des enfants. Moi, j'avais quand j'avais mes règles, j'avais des douleurs atroces. Et du coup, je me suis quand même dit, j'ai pas envie de faire comme certains proches qui ont attendu 2 ans avant de voir qu'en fait il y a quelque chose qu'on peut soigner rapidement ou voilà. Enfin, ça peut certaines fois des petits détails. Je préfère aller checker pour voir si tout va bien. D'autant plus qu'à la limite, c'est peut-être l'occasion de voir pour ces douleurs. Et du coup, je suis tout de suite allée voir ma gynéco, une gynéco de quartier, pour lui dire voilà, on a décidé de faire un bébé. Je voudrais vérifier que la machine fonctionne et que tout va bien de mon côté. Et puis, je lui ai parlé de ses douleurs.
Okay.
Voilà. Du coup, c'est parti comme ça. Et en l'occurrence, ma mère avait vu, en fait, quelque part. À l'époque, on parlait pas du tout d'endométriose. Ma mère, à l'époque, avait vu un article et m'a dit, écoute, vu comme t'as mal à chaque fois, peut-être que tu as ça. Il faudrait peut-être que tu demandes à ta gynéco de vérifier. J'en ai parlé à ma gynéco qui m'a dit, bon, si vous voulez, on va faire une échographie. Le problème, c'est que une échographie qui est faite par quelqu'un dont c'est pas la spécialité, en fait, il va rien. Voilà. Ouais. En fait, j'ai fait une écho, on m'a dit non, il y a rien. Moi, j'étais ravie. Je me suis dit, bon, bah, j'ai mal. Hein, c'est normal d'avoir mal quand on est une femme, parce qu'on me l'avait toujours répété. Ah. Voilà.
Une fois, on l'a pas entendu.
Hein. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est la vie. Hein, je vais continuer à bouffer mon ibuprofène et puis, c'est pas grave, tout va bien. Mais en fait, non. Mais ça, je l'ai su beaucoup plus tard, hélas. Voilà. Mais en gros, on est parti comme ça. Tu veux que je continue le parcours du coup? Tu veux que je continue à raconter?
Ouais, bah ouais, raconte, ouais, du coup. Alors, donc, elle te fait la première batterie d'examen, dont cette échographie sur laquelle, donc, elle ne voit rien. Mais en même temps, elle sait pas vraiment ce qu'elle cherche, puisqu'elle est pas vraiment formée là-dessus, est-ce que je comprends? Monsieur Leblon, tout va bien de son côté, ou on le teste aussi, ou on regarde que la machine pour
la blague? Non, mais c'est ça, la blague. C'est ça qui est génial. C'est que, justement, non, c'est pas la peine. De toute façon, en gros, tout va bien de votre côté. Ça sert à rien de se prendre la tête. Grosso modo, on considère que jusqu'à 2 ans, en fait, c'est pas un problème. Dire 2 ans, ça commence à faire long, quand même. Mais bon, voilà, tu te dis, oh, on va pas, tu vois, ça sert à rien de se stresser, etc. Le problème, c'est que du coup, 6 mois passent à nouveau. Il y a un moment, ça commence à devenir, bah, tu vois, enfin, tout le monde connaît, hein, au fur et à mesure, quand tu veux bien moins longtemps, devenir un peu pesant. Je rencontre une amie qui me dit « Ah, mais je connais un médecin génial, limite le docteur miracle où toutes les femmes tombent enceintes rien qu'en le voyant. » Je dis « Oh, ça paye pas de... ça mange pas de pain, je vais aller le voir. » Là, le monsieur ne me fait aucun examen, me pose plein de questions. Évidemment, bien sûr, il faut que je vous dise, je suis assez ronde, je suis un peu en surpoids, effectivement, et ça pose toujours problème au médecin, alors que j'ai une santé qui va quand même plutôt pas mal, en dehors de mes problèmes féminins. Et à chaque fois, on me fait toujours chier avec mon poids. C'est comme si mon infertilité était de ma faute parce que je suis dodue. Donc ça, c'est un truc qui a été un peu dur dans le parcours parce que ça a été assez récurrent et... un peu difficile, mais bon.
C'est hyper fréquent, ces retours, c'est vrai.
Ah ouais, c'est vrai, hein, c'est fou. Une espèce de...
Alors, enfin,
c'est
vrai, les États-Unis, ils s'en foutent pas mal, hein. À moins que tu sois en obésité morbide.
C'est ça.
je suis un peu en surpoids aussi, et c'était une question que j'ai posée en fait tout de suite, et on m'a dit clairement non, non, c'est pas le problème. J'ai dit bon, bah tant mieux.
Non, c'est-à-dire que ça peut, effectivement, le surpoids peut te poser des problèmes, mais si on n'a pas, t'as envie de dire, écoute, voilà, hein, on passe à autre chose, on regarde le reste. Mm-hmm. Bref, du coup, en fait, ce médecin me dit non, non, mais c'est pas la peine. Il me fait vaguement enfin, il regarde vaguement comme fait tout gynéco pour un truc de routine, en fait. Et puis il me dit bon, bah, en fait, je vais vous donner du Clomide, hein, ça vous connaissez toutes les galériennes. et puis ça va aller dans 6 mois. Vous revenez s'il y a pas de grossesse. Le problème, c'est que ce que je ne savais pas à l'époque, le Clomide, c'est des hormones. Il m'en a donné 2 à prendre, en fait. Je me souviens plus exactement à quel moment du cycle, mais genre, pendant 4 jours, j'avais 2 Clomides à prendre, à peu près juste avant l'ovulation, j'imagine, ou pendant.
Il y avait des cycles réguliers à l'époque?
Ouais, moi, j'ai jamais eu de soucis de cycle. Non, c'était pas vraiment mon cycle problème. Pour ça, moi, ça a toujours été régulier, donc ça, c'était bien. En revanche, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, l'endométriose, du coup, sont des bouts d'endomètre pour ceux qui ne savent toujours pas, c'est des bouts d'endomètre qui se fixent dans le corps au moment des règles. Et en fait, cet endomètre, donc, qui est un peu partout, même s'il est minime, réagit aux hormones. Joie. Donc, en fait, prends le Clomide entier, moi, clairement, j'ai douillé à mort. Ah, mais c'était horrible. En plus, c'était au moment, du coup, de l'ovulation. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression que t'as mal tout le temps. Enfin, il y a un moment où ça va, mais bref, du coup, à ce moment-là, j'ai fait ça pendant 6 mois, il se passait rien, et là, je me suis dit, en fait, ça suffit, le mec, il en a rien à faire, il m'a fait aucun test, il me file des hormones à prendre n'importe comment, y a rien qui marche, faut peut-être que je fasse autre chose, puis surtout quand tu perds la confiance, dans un médecin, même si le médecin est bien, peu importe, faut que tu changes, en fait. Voilà.
Ouais,
en fait, à ce moment-là, il y a eu un jour particulier, c'était assez marrant, où 3 personnes complètement différentes qui n'avaient rien à voir m'ont dit le même jour, ah tiens, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle la nanotechnologie, tu devrais voir. Ça peut peut-être t'intéresser, sachant que nous on a toujours beaucoup communiqué sur le fait qu'on galérait, donc en fait les gens savaient qu'on essayait de faire un bébé et que c'était pas facile. À l'époque, ça faisait un an, donc c'était pas non plus mais les gens le savaient déjà. Donc mes copines, 3 copines qui ne se connaissaient absolument pas, m'ont dit le même jour, m'ont parlé de ça. Je me suis dit c'est un signe. Donc je suis allée voir un peu ce que c'était.
Alors, nous redire le nom exactement?
Alors, c'est Naprotechnologie, qui en fait est anglais. Enfin, anglais, ça vient pas d'Angleterre, et je veux pas dire de bêtises, je crois que ça vient des États-Unis, mais je ne suis pas sûre, donc je veux pas dire de bêtises. En fait, c'est en anglais, c'est Natural Procreation Technology. On admirera mon accent anglais au passage.
Donc,
Natural Procreative Technology. Donc, voilà, c'est pour, c'est pour aider la procréation, mais de façon naturelle. Donc, en fait, vraiment essayer, en gros, le concept, c'est vraiment essayer d'aider au maximum à concevoir bébé sous la couette, mais voilà, en réglant les problèmes qu'il y a. Après, c'est un truc qui convient pas à tout le monde, parce qu'effectivement, pour les cas, par exemple, d'azoospermie ou de trucs comme ça, donc, quand monsieur n'a aucun spermatozoïde, malheureusement, il y a que la PMA qui fonctionne. Mais voilà, donc, c'était une option. En fait, ce que j'avais trouvé chouette, c'était une option avant de passer directement en PMA. Surtout que moi, j'avais un peu peur, c'est que vu que je réagissais comme une malade à 2 Clomides, je pense que j'aurais clairement pas pu, moi j'aurais malheureusement pas pu, j'ai des amis qui ont essayé et c'était compliqué, j'aurais clairement pas réagi à la stimulation ovarienne ou au truc comme ça, hein. J'aurais pas pu malheureusement. Donc finalement, je suis contente d'avoir trouvé cette alternative.
Alors, quand on se dit « j'ai envie de creuser le sujet naprotechnologie », du coup, tu t'es adressée à qui? Enfin, comment tu t'es débrouillée?
Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une amie qui était… À l'époque, il n'y avait pas vraiment de site, il n'y avait pas vraiment de trucs sur Internet. Maintenant, tu tapes, il y a un site qui est vachement bien fait, qui t'explique plein de trucs. Enfin, voilà. Mais à l'époque, en fait, c'était pas trop ça. J'avais une amie qui galérait comme nous et qui galère toujours. Enfin, voilà. Qui avait commencé ce process après la PMA. Elle avait commencé par la PMA et en fait, c'était passé par là ensuite. Et m'a dit, en fait… je te donne le numéro, il faut appeler, en fait, tu vois une instructrice et après tu vois un médecin. Donc, une personne qui va t'aider à comprendre tout ce qu'il faut faire. Et du coup, je m'étais dit, oh là, qu'est-ce que c'est? Mais elle m'avait donné un numéro de téléphone, donc, et j'avais appelé, donc, une certaine Laura. Je le dis parce qu'en fait, elle qui nous a suivis et qui est adorable, donc c'est vraiment, je peux dire son prénom.
Ouais.
Et du coup, j'ai appelé pour savoir de quoi il en retournait. Là, elle m'a expliqué que, en fait, il y avait 3 rendez-vous avec donc une instructrice qui était formée à la naprotechnologie. En fait, ça se base sur l'étude donc des glaires, donc féminines. ça se faisait en couple et qu'après, une fois qu'on avait, donc t'as un tableau à tenir en fait avec tu dis chaque jour bah ce que tu sens, etc. Il y avait tout un tableau aussi pour ce qui était potentiellement le syndrome prémenstruel, en fait, de dire si t'as des douleurs au dos, si t'as mal à la tête, enfin tous les problèmes que t'avais dans ton corps, même si tu penses que ça n'a aucun lien avec la fertilité, en fait tout se tient, hein, dans le corps. Du coup, en fait, on l'a rencontré 3 fois et après on voyait le médecin. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas, de toute façon, ça mange pas de pain, encore une fois. Allons-y, on va tester. Si ça marche, tant mieux, on est prête à tout, hein, franchement.
Et alors, le blond, lui, il était à fond aussi, enfin, je veux dire, où il te suivait.
Ouais, il était. Non, il a été. Ça, c'était chouette. Ouais, il a été. Il a toujours été assez moteur dans le projet. Donc ça, c'est cool. J'étais pas toute seule. Sauf qu'effectivement, ce que j'ai apprécié avec la NAPRO, c'est qu'à chaque fois, il fallait vraiment au maximum y aller en couple. Bon, après, il y a les trucs que tu fais, tu vois, comme les examens, les machins. Tu t'arranges, hein, comme tu peux. T'es obligé de poser tout le temps. Mais c'est vrai qu'en fait, ils comptent vraiment sur le concept, genre, bah, ça se fait à deux.
À deux, quoi.
Du coup, c'est quand même... Ouais, c'est cool parce que le nombre de fois où tu vas avant, t'es un peu toute seule, même si ton mari est en amour, enfin, du coup, ça, j'avais trouvé ça cool, tu vois, de pas être toute seule, d'être vraiment pris en compte dans le couple.
Carrément. Voilà. Ouais, super. Donc, du coup, vous vous lancez, c'est où? C'est dans Paris? C'est une clinique, du coup? C'est quoi?
Alors, non, pas du tout. En l'occurrence, alors, je sais pas aujourd'hui exactement, mais à l'époque, donc, nous, quand est-ce qu'on a commencé? Que je dise pas de bêtises, je crois que c'était en 2015, parce que oui, je suis tombée enceinte un an après, 2015, et du coup, en fait, il y a très peu de médecins encore formés, en France en tout cas, à la naprotechnologie, et à l'époque, le médecin le plus proche de Paris était à Nantes. Il y avait deux médecins à Nantes. Ah oui, et je crois d'ailleurs qu'à Paris, il y a toujours pas de médecins formés à la napro, ce qui est assez improbable quand ils pensent, parce que Paris, c'est quand même le...
Oui, généralement, c'est l'inverse. C'est, on vient de province. Bah, tant mieux pour les provinciaux. Mais oui, je comprends, pour toi, c'était pas évident.
Non, mais c'est pas très loin de Paris, donc tu vois, ça s'est fait. Il y avait pas de souci. C'est à 1 heure de Paris, tu prends un train. Non, ça c'est à 2 heures, mais ça se fait bien. Hein. Tu prends un train à 7 heures le matin. Moi, j'étais freelance, donc bon, pour d'autres, c'est peut-être plus compliqué, mais ouais, tu vois, à Paris, tu es en couple, tu te fais une bouffe à Nantes après, tu vois, dans l'absolu, et puis tu vas pas tout le temps voir le médecin, tu vois, vu que t'es suivi par une instructrice. Le médecin, c'est vraiment pour ce qui est ordonnance, vérification, truc vraiment médical, mais pour tout ce qui est le suivi de cycle, comme les nanas qui sont instructrices sont vraiment bien formées, elles peuvent t'aider aussi, tu vois, et puis le médecin peut t'aider par téléphone, etc.
Ah, super, d'accord, ok. Bon, très bien, donc du coup, vous voilà dans le train, direction Nantes, pour aller rencontrer l'instructrice, puis le médecin.
Exactement. Du coup, écoute, l'instructrice qui peut, ah oui, pardon, j'ai pas été très claire. L'instructrice était à Paris, donc ça c'est pratique.
Ah, okay,
et
bien,
le
médecin
était à Nantes.
D'accord. Donc j'ai bien compris. Du coup, le médecin était à Nantes, les instructrices ou l'instructrice en tout cas était à Paris. Donc vous faites vos 3 premières séances. Ça consiste en quoi, du coup, ces 3 premières séances avec l'instructrice?
Alors en fait, on te donne un tableau avec des lignes, en fait, tu sais, pour chaque jour de ton cycle. Et en fait, ce que je disais, c'est que du coup, c'est basé sur l'observation des glaires. Donc en fait, elle t'explique comment observer, comment noter. Il y a des trucs particuliers, il y a des espèces de, tu sais, des chiffres avec qui équivalent en fait à la consistance de la glaire. C'est pas très glamour, je suis désolée, mais,
non, mais
c'est un peu
la
le
vie,
concept
hein.
Du cycle. Voilà. Et du coup, en fait, elle t'explique comment noter les trucs dans le tableau, ce qu'il faut noter, si t'as pris des médicaments, parce qu'on sait, bah, les médicaments peuvent changer les trucs dans le cycle, etc. Donc, en fait, on t'explique vraiment bien comment observer ta glaire. Et puis, surtout, et en fait, ils insistent pas mal de faire ça en couple, que monsieur, tu vois, tienne le tableau et de, enfin, tu vois, voilà, l'impliquer un peu, que tu sois pas toute seule à passer ta vie aux toilettes, à regarder comment ça se passe. Le côté glamour de ta vie à essayer de faire un bébé, quoi.
Oui, c'est vrai.
Ça se passe beaucoup aux toilettes, hein, toujours. Voilà. Mais du coup, en gros, c'est ça. Et puis, en fait, ça, nous, de notre côté, ça a été aussi beaucoup, effectivement, quand tu dis accompagnatrice, c'était pas faux. C'est qu'on a eu des grands moments, effectivement, on est un peu désespérés, tu vois, en mode, de toute façon, on va tout arrêter, ça sert à rien, on n'y arrivera jamais, et on en a marre, on veut arrêter. Et en fait, elle nous a vraiment, tu vois, elle joue un peu le rôle de maman, entre guillemets, où elle te remonte le moral en disant, mais non, ça va aller. Enfin, vraiment, je saurais pas de quoi te dire, mais à chaque fois, tu vois, elle te reboote quand même, en disant, mais regarde, il y a ça qui va bien, et puis ton taux de machin, il est top, et puis, tu vois, j'y connais trop rien, mais tu vois, elle te dit, mais regarde, la FSH, la LH, tu vois, c'est, on dirait une jeune fille. Enfin, bref. Des petits trucs comme ça, assez utiles, et vraiment cool, parce que du coup, t'es pas tout seul dans ta galère, tu vois, à essayer de prendre tes médocs, faire tes rendez-vous, tes examens, tes machins, tu vois.
Bon, super, d'accord. Donc, c'est un peu ton coach sur le côté du terrain qui est avec toi, quoi, qui est avec vous deux. Super.
Exactement, non, c'est vrai.
Et alors, du coup, donc moi, je connais pas du tout la naprotechnologie, comme tu dois t'en rendre compte de par mes questions. Tu fais ces trois séances où, du coup, on t'apprend ces choses-là et en même temps, on te donne des instructions autres que ces tableaux ou, enfin, je veux dire, on vous parle d'un protocole quelconque, même si, du coup, j'imagine qu'il est moins médicalisé puisque le but, c'est d'être aussi naturel que possible. Comment ça se passe?
Alors, bien sûr, hein, parce que si ça arrive pas, malheureusement, en général, si t'as pas de problème, tu arrives tout seul. Hein. Mmh. Donc, voilà. Malheureusement, c'est qu'il y a quand même des problèmes, des petits problèmes à régler. En fait, du coup, c'est basé sur cette rien qu'en observant en fait les trois séances, c'est les trois premières séances pour que le médecin puisse avoir en fait un peu une vue d'ensemble de comment ça se passe grosso modo chez toi, ton cycle. Mm-hmm. Et le médecin, donc quand il te voit après ces trois séances, déjà une petite idée, tu sais, certaines fois rien qu'avec le cycle, tu peux t'apercevoir qu'il y a un manque d'œstrogène, de progestérone, etc. Mm-hmm. Après, bien évidemment, c'est pas des charlatans, c'est un médecin, donc en fait, t'as les examens qui vont avec ce qu'il pense. Tu vois, qui va pas chez toi. Moi, typiquement, en fait, je suis repartie avec un nombre d'examens incroyable. T'as des prises de sang, en fait, juste après l'ovulation pour vérifier ta progestérone, parce qu'évidemment, sans progestérone, pas de nidation, donc pas de bébé. D'ailleurs, la plupart, on est toutes supplémentées, en fait, parce que moi, typiquement, c'était vraiment mon truc. J'en ai pas eu. J'en ai eu toute ma grossesse en plus. Alors que normalement, une fois que t'es enceinte, le placenta prend le truc. Moi, j'ai eu quasiment jusqu'à la fin de ma grossesse, j'avais de la progestérone en plus.
Ah ouais, d'accord. Okay.
Mais parce que ça évite effectivement, souvent on dit ça évite les fausses couches, mais parce qu'effectivement sans progestérone, l'embryon ne s'implante pas, donc c'est ça, donc c'est compliqué. Du coup, tu vois, il y a ça, ils ont effectivement vérifié, ça a été les premiers à me parler d'endométriose réellement, et à me faire faire une IRM plus une échographie par quelqu'un dont c'était clairement le métier, et ensuite, bah du coup, j'ai été opérée parce que j'en avais, alors, rien de très grave comparé à certaines, mais du coup, j'ai été opérée parce qu'en fait, ils nous ont expliqué qu'à l'époque, ils savaient pas pourquoi, mais que les femmes qui avaient l'endométriose pouvaient ne pas arriver à avoir d'enfants à cause de ça. Alors, bon, y en a qui en ont et qui sont enceintes, mais c'est un des trucs qui sont un peu, voilà, ils savent pas trop, c'est un peu mystérieux avec l'endométriose. Okay. Donc, il y a eu ça. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est qu'ils font vraiment un état des lieux de tout le corps. J'avais des problèmes digestifs, ils se sont aperçus que il y avait, en fait, il y a clairement un problème entre la fertilité et le sucre. Du coup, t'as un régime un peu Ouais, vraiment.
J'ai jamais parlé de ça.
Eh ben écoute, si, mais quelque part dans l'absolu, ça m'étonne pas parce qu'en fait tout est lié dans le corps. Donc s'il y a un truc qui va pas trop bien, t'as un grain de sable quelque part, ça peut potentiellement, à mon avis, tout enrayer quoi.
Ah, c'est du coup une approche hyper holistique en fait qui te font quoi. On vient voir Claire et Leblon dans leur ensemble et on regarde pas que le système reproductif. Enfin, ça paraît évident comme ça, mais c'est hyper intéressant. Puis ça t'est agréable aussi. Ok.
C'est ce que j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment, en fait, tu vois, c'est ça que je reproche un peu, en tout cas en France, je sais pas comment ça ira dans le monde, c'est que souvent la médecine, c'est des généralités, des généralistes, et qui se cantonnent à leur spécialité, en fait, enfin des généralités spécialistes qui se cantonnent à leur spécialité, pardon, je vais réussir. Et en fait, t'as envie de dire, ton système reproducteur, il est quand même lié à ton système digestif, qui est lié à ton cerveau, qui est lié à tout, tout est lié, quoi.
Surtout quand on parle d'hormones.
C'est ça, exactement. Et en fait, j'ai découvert aussi, j'avais pas mal de problèmes digestifs. Rien de grave, mais enfin des trucs un peu pénibles. Et en fait, tu vois, tout est lié aussi. C'est-à-dire qu'ils m'ont découvert pas mal d'intolérances alimentaires ils sont aperçus aussi, tu vois, on parle beaucoup du gluten, souvent les gens rigolent, mais que les intolérances au gluten peuvent aussi, enfin tu vois, ça peut aussi jouer sur la fertilité. Donc en fait, c'est avec eux que j'ai découvert pas mal de trucs. Génial. Donc ça, c'était très chouette. Et je m'étais toujours dit, écoute, même si ça marche pas, je suis contente parce qu'en fait, il y avait plein de petits trucs dans ma santé qui n'allaient pas et je trouvais ça assez chouette, en fait, du coup, de mettre le doigt sur des trucs que les médecins que j'avais consultés auparavant n'avaient pas forcément vu, en fait. Du coup, c'était assez intéressant. Évidemment, mon blond a fait un test, hein. Bien évidemment, c'est un peu la base. Lui a aucun souci. Donc, tu vois, j'en parle pas trop parce que voilà, enfin, après coup, oui, tant mieux, c'est déjà ça. Voilà. Et moi, en fait, assez vite, du coup, grâce aux examens, donc c'était échographie, bien sûr, on a vers la fin, en fait, plus tu avances et plus, en fait, il ne se passe rien, plus, du coup, en fait, ils avancent aussi dans les examens pour t'accompagner. Mmh. C'est-à-dire qu'au début, ils vont pas faire tout. Examen un peu pénible, c'est-à-dire que tu fais la base et puis après, bah si ça marche pas, ils te proposent des trucs en plus, tu vois, un peu comme j'imagine. Je connais pas trop du coup la PMA puisque j'ai eu la chance du coup de tomber enceinte un an après avoir commencé ce parcours, mais Mais vraiment, c'était ça qui était chouette, tu vois. À la fin, j'avais des échographies pour vérifier que mon ovulation avait bien eu lieu, que le corps jaune était là, etc. Enfin, qu'il y avait bien, un ovule qui était parti. Enfin, tu vois, du coup, c'est vrai que ça allait assez loin et c'était assez chouette. Tu te sens vraiment, c'est pas un truc que genre mange, bois des tisanes et puis arrête le sucre, puis tu verras. Tu vois, c'est vraiment, c'était vraiment.
Globalement.
Ouais, en douceur, mais quand même médicalisé, donc on ne fait pas rien non plus, quoi.
Ok, donc entre ces trois premières séances sur Paris, puis les examens, les rendez-vous avec les médecins, il se passe à peu près combien de temps avant qu'on te dise ok, voilà comment on va procéder ?
Bah en fait, il y a eu les trois donc rendez-vous. On est parti, on a commencé en mai, on est parti en juillet, début juillet voir le médecin à Nantes. Bon, c'était les vacances, donc voilà, mais on a commencé en juillet à faire. Bah elle nous a tout de suite dit, vous allez faire un examen pour l'IRM, etc. En octobre, j'étais opérée de l'endométriose. Donc tu vois, ça avance assez vite. Et puis il y avait tous les mois ton dosage de progestérone. Je me souviens bien, en gros moi clairement j'avais ce souci là, j'avais le progestérone, aussi une ovulation qui était pas toujours top, donc j'avais du chlomide en plus. Mais le reste, tu vois, j'avais pas forcément énormément de problèmes. On te conseille pas mal aussi les médecines alternatives comme ostéo, alternatives, hein, on se comprend, mais oui, pas oui. Plus parallèle, je sais pas comment dire, je veux pas blesser les gens en disant n'importe quoi, mais en gros, ostéo, même si t'as médecin chinois, de l'acupuncture, mm-hmm. ou des trucs comme ça, voilà, tout se fait, hein. Ouais. Mais ça fait du bien aussi, donc c'est pas mal. Voilà, et en fait, du coup, tu vois, ça a commencé très vite. On a vu le médecin, et là, bam, c'était parti. On avait notre pile d'ordonnances, j'avais ma pile d'ordonnances et d'examen, etc. Et puis, en fait, elle, ce qui était bien, c'est qu'elle avait beau être à Nantes, dès qu'il y avait des résultats, au taquet, bam, ordonnance pour la progestérone, t'en prends tant à tel truc, t'es hyper bien suivi. Ouais. Donc voilà, donc ça a commencé tout de suite, et puis, régulièrement, tu vas la revoir, mais c'est quoi, j'ai dû le médecin, on y allait trois fois, je crois, sur un an.
D'accord,
donc,
ouais.
Ce qui est bien, c'est quand même le suivi à distance. Il prend vraiment compte que t'es pas à côté et que c'est pas non plus facile, quoi.
Ouais, d'accord. Génial. Du coup, en fait, il y a des gens qui viennent un peu de partout en France pour voir ce médecin à Nantes. Enfin, il y a vraiment pas d'autres.
Alors, il y en a pas qu'un. À l'époque, il y avait trois médecins, mais je crois que maintenant, il y en a deux à Nantes. Alors c'est marrant, ils sont tous à Nantes. Ensuite, il y en a un, je crois, dans le Nord. Il y en a un à Bordeaux, je crois, à Aix. Je veux pas dire de bêtises, ouais. Si je me souviens plus exactement, mais il y en a d'autres dans la France, mais il y en a pas à Paris. Voilà. Mais il y en a d'autres. Je sais plus combien ils sont.
Ouais. Mais c'est pas beaucoup.
J'ai moins de 10.
Ouais, d'accord.
Non, c'est pas beaucoup. Okay. Peut-être plus maintenant, mais c'était pas du tout français. Et c'est vrai que c'est sorti il y a pas si longtemps que ça. Enfin, ouais. Vraiment. Tu vois, Bertie a bientôt 3 ans, ça fait 5 ans, nous, et ça venait tout juste de commencer. Donc, on en parle beaucoup plus maintenant, mais quand même, ça reste encore un truc
ouais.
un peu
ouais, nouveau,
peu
quoi.
Connu,
ouais.
quoi, et du coup.
Bah, c'est génial.
Ouais, ça est moins développé.
Alors, donc, du coup, toi, donc, tu prends donc du chlomide, tu t'es fait opérer. Désolée pour le bruit ouais. à côté, le confinement avec les enfants, c'est génial. tu te fais suivre aussi, du coup, quoi, par un ostéo, tu fais de la médecine chinoise, de l'acupuncture, tu disais, tu as testé les trois?
Exactement, ouais. Moi, je suis assez ouverte à ce genre de trucs. Ouais. Je trouve que c'est. Moi, j'aime bien. Ça m'a toujours fait du bien. Et en l'occurrence, ce que je raconte dans ma BD, c'est marrant, c'est que. Mon ostéo m'avait été recommandé, et puis un jour, elle me met les mains sous la nuque, elle me tapote la nuque avec ses doigts, je dis là, mais qu'est-ce qu'elle fout? Et en fait, elle me dit, non, bougez pas, je suis en train de masser votre hypophyse. Et je me marre intérieurement en me disant, mais n'importe quoi, c'est pas possible. Si vous allez voir, votre glaire va être parfaite. Évidemment, on le sait peut-être pas toutes, mais sans glaire fluide au moment de l'ovulation, le spermatozoïde, ils peuvent pas aller bien loin. Donc voilà, donc c'est un peu nécessaire. Et moi je me marrais en me disant non mais sérieusement. Et puis elle me dit ouais attention, vous levez pas trop vite, vous allez avoir le bassin un peu bloqué. Ouais. Je me marre et en fait en vrai j'avais le bassin un peu bloqué, c'est la merde. Elle me dit mais qu'est-ce que vous croyez que je suis en train de faire? Non mais en vrai elle me tapotait avec la pulpe des doigts, donc c'était vraiment rien ouais. du tout quoi. Improbable. Ouais, c'est une chance, c'est ce mois-ci que je suis tombée enceinte. Donc...
Ah ouais.
C'était assez. Ouais. Ouais. Non mais pour la blague hein, parce que c'était marrant. Je m'étais vraiment marrée intérieurement. Ouais. Bon mais c'est n'importe quoi. C'est la situation vue de haut est drôle. Ouais. Et en fait, en l'occurrence, si, c'est très utile, en fait. Mmh. Et je recommande, parce que de toute façon, ça peut faire du bien. Et voilà, bon, avec un bon ostéopathe, on est bien d'accord. Mais il y en a qui sont spécialisés, justement, dans tout ce qui est corps féminin, etc. Et ouais, ça peut être un bon plus. L'acupuncture aussi, très très efficace, en tout cas pour moi. Donc ça, je Je suis même allée voir, je crois que j'ai un peu tout fait. Genre, des tests de magnétiseuse ou un truc comme ça, mais je crois que j'ai tout essayé.
C'est génial.
Je me marre parce qu'elle était adorable, mais c'était un peu improbable aussi.
C'est
qu'à force, j'essayais de trouver tout et n'importe quoi pour réussir à tomber ensemble, ouais. Quoi.
Ouais, non, mais je comprends. Mais
si jamais.
On est tous pareils, hein. Je crois qu'on, que ce soit PMA, NAPRO ou autre chose, je pense que ça nous ouvre énormément l'esprit quand même sur le champ des possibles. Ouais, c'est sûr.
Mais c'est ça. Tu te dis, si ça marche, je m'en fous. Si on te disait, tu tomberas enceinte en mangeant que du chou, tu serais capable de le faire, en fait.
Donc, c'est complètement dingue, mais c'est vrai. Bon.
Non, mais c'est vrai.
Alors, donc, du coup, tu te fais accompagner. Donc, vous commencez, je dirais, officiellement quoi? Tu t'es fait opérer en octobre. Donc, fin d'année, vous lancez un peu officiellement avec les cycles, avec le Clomid, c'est ça? Et tout cet accompagnement?
Non, ça a commencé vraiment, je te dis, en fait, j'ai vu le médecin en juillet. Mm-hmm. On a vraiment commencé, je dirais, août, septembre, c'était parti.
Ah, ok, d'accord. Vous avez commencé avant l'opération.
Ouais, avant. L'opération, c'était en plus, mais parce qu'en fait, il fallait trouver le ponte, tu sais, qui est spécialiste de l'endométriose, mm-hmm. qui était dans une clinique, un truc, enfin voilà, où tu mets limite 6 ans à avoir un rendez-vous. Alors, pas autant, mais voilà. Donc, non, l'endométriose, c'était à côté.
D'accord.
Je suis en train d'essayer de réfléchir. J'ai fait d'autres. Mais je crois que c'était vraiment, moi, ça a été vraiment ça, parce qu'il n'y avait pas vraiment le temps. Il se posait la question au moment, juste avant que je tombe enceinte, on était allé la voir un peu désespérée, en mode ça fait un an. Et il se posait la question de vérifier, je ne connais plus le nom. Ah oui, j'ai fait aussi, bien sûr, hystérosalpingographie, tous les trucs hyper sympas. Ça a été fait, bien sûr. Alors, je rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas que c'est pour vérifier qu'il n'y a pas, les trompes ne sont pas bouchées. Donc, on te met un liquide dans l'utérus pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, c'est très, très sympa, très agréable. Voilà.
Alors, on te dit toujours, ça ne fait pas mal, mais ce n'est pas très agréable. Mais si c'est pas très agréable, généralement, ça dépend vachement des femmes, hein, c'est vrai. Et enfin, des femmes, et surtout, je pense, des praticiens aussi qui fait. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas évident.
Peut-être que, je sais pas, moi j'avais pas de problème au niveau des trompes, donc ça allait, mais peut-être que quand t'as les trompes bouchées, ça te fait horriblement mal. Je n'en ai aucune idée. Je sais pas si c'est des adhérents, des trucs comme ça. Ah oui, parce que c'est ça aussi que j'avais avec un problème, c'est qu'en plus de l'endométriose, j'avais de l'adénomyose. L'adénomyose, c'est de l'endométriose, mais c'est de l'endométriose, mais qui se met dans la cavité utérine, donc à l'extérieur. En fait, ça ne se soigne pas. Donc, en fait, t'as des espèces de lésions dans ton utérus, ce qui est quand même un peu un problème.
Ouais.
Voilà. Ouais, ça s'appelle adénomyose. C'est de l'endométriose, mais c'est sur le muscle utérin et ça crée en fait un peu comme des crevasses. Je suis sûre que je dis des conneries, donc si vous êtes médecin, ne m'en voulez pas, et sinon allez regarder sur Google.
N'hésitez pas à venir nous raconter si jamais vous pensez qu'il y a un truc à corriger. N'hésitez pas à venir nous le dire sur Instagram. Au bout de quoi, de à peu près un an, donc tu dis vous allez voir le médecin en disant les gars, ça marche toujours pas. C'est ça?
Alors, un peu moins d'un an, parce que pour la blague, je suis tombée pile poil un an après enceinte.
C'est vrai, génial.
Le jour où le miracle arrive, on s'en souvient tous. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, un mois avant, on avait vu notre médecin, un ou deux mois avant, je sais plus, et en fait, on était complètement désespérés, et on s'est dit, ça marche pas. On s'était clairement posé la question de la PMA, mais vu comme je réagissais aux hormones, au final, moi, du coup, Clomid, j'étais sous un demi-Clomid. Que je prenais, j'en prenais juste deux sur le cycle, donc autant vous dire que clairement c'était vraiment adapté à mon cas, mais c'était compliqué quoi. Du coup, la question s'est posée, mais pas plus que ça, parce que je me suis dit il y a un moment j'ai pas envie d'y laisser ma peau non plus. Du coup nous on était vraiment, on s'était dit pourquoi pas adopter. Voilà, on en était là.
D'accord.
Et on a envoyé notre il y a une lettre envoyée pour faire une demande d'agrément en fait pour l'adoption, et je suis tombée enceinte à ce moment-là, juste après avoir envoyé la lettre, pour la petite blague.
Dingue. C'est dingue. Raconte un peu comment t'as découvert ça.
Alors c'est ça justement qui est marrant, c'est qu'on est parti donc en vacances en début août. Il y a un protocole en approtechnologie pour si jamais tu tombes enceinte, avec ce qu'il faut faire, etc. Je me souviens plus, encore une fois, je suis désolée. Faut appeler. Non, mais je suis pas hyper douée, mais en gros, il y a un protocole à suivre, pour évidemment faire au max qu'il n'y ait pas de soucis, que tu gardes le bébé et que tu fasses pas une fausse couche ou un truc spontané. Enfin, bref. Donc, en l'occurrence, moi, je regarde ça, je me dis, écoute, c'est les vacances, j'en ai plein les fesses, je prends pas, je m'en fiche, là, c'est les vacances, on déconnecte, je prends pas ça. Et en fait, du coup, j'attendais mes règles, évidemment. mes règles n'arrivaient pas, je commençais à m'imaginer plein de trucs en me disant, attends, en calculant comme on a tout fait, mais un milliard de fois, dans 9 mois, on sera à quelle date, ah, ce serait sympa, et c'était un garçon, ce sera comme ça, et c'était une fille, enfin, limite, ça fait même pas un jour que t'as du retard, et ça y est, t'es déjà mère de triplé. Non, mais c'est vraiment ça, et en fait, tu sais que plus ça va, plus tu commences à t'imaginer des trucs, et plus, en fait, la descente va être dure. Donc, en fait, j'ai dit assez à mon blond, va acheter un test parce que j'ai envie que ce soit fini. Je vais regarder, je serai pas enceinte, mes règles vont arriver et puis basta. Et puis on profite des vacances et puis voilà. Mais j'ai pas envie de chialer pendant les vacances, ça me fait chier en fait. Là. Du coup, il est allé en mode je crois pas, mais bon, je suis un mari sympa donc j'y vais. Pour la petite blague, la pharmacienne lui a dit vous voulez qu'il soit positif ou négatif? Elle est pas positif. Elle a dit ça tombe bien, je ne vends que des positifs. Donc c'était marrant. Il rigolait, il lui a dit, s'il est positif, vous venez me voir, donc pour la blague. Donc, il m'a apporté le test. Je suis allée le faire dans la journée. J'ai même pas attendu le matin, en fait. On sait que le matin, il y a plus de chances de voir qu'on est enceinte, machin. Et voilà, moi, dans ma tête, c'était vraiment, je le fais, et puis comme ça, c'est torché et je peux passer à autre chose, quoi. Et en fait, le truc que celles qui sont tombées enceintes après beaucoup de galères ont eu, tu vois le trait, t'es là, what? Non, c'est pas vrai, mais t'y crois pas, en fait. Et le problème aussi, c'est que du coup, j'ai gueulé pour appeler mon mari, qui était « Mais qu'est-ce que t'as crié ?» Et la blague, c'est qu'en fait, dans la tête, on a tous ces moments où tu vas annoncer à ton mari que t'es enceinte, tu fais une mise en scène, un machin, un peu du tout. Là, c'était tout le monde ton test, qui a 2 minutes à peine, limite, où t'as pas remis le bouchon dessus, tu vois. Bref, le truc le moins glamour du monde. Et en fait, le truc horrible, c'est que tu te dis « Ouais, ok, on a tellement galéré, attends, on attend. » Tu vois, en fait, c'est ça le pire, c'est que t'es content, mais tu te retiens
d'exploser, tu vois.
Je sais pas pour vous, mais nous, ça a été peur. On s'est retenu d'être vraiment heureux, en fait, tu vois, parce qu'il y a un côté, t'as tellement galéré que tu te dis, j'ai vu tellement aussi de cas, en fait, tu traînes aussi avec tes amis de galère. Donc, t'as vu tellement de trucs, mais pire que toi, mais mille fois pire. Moi, vraiment, je suis comparée à d'autres. J'ai eu de la chance. J'ai évité plein de piqûres, j'ai évité des trucs, l'endométriose, j'en ai, mais pas de façon, ça m'empêche pas de travailler et de vivre. Enfin, il y a des trucs vraiment tellement horribles. J'ai pas fait de fausse couche, j'ai pas... pour l'instant, j'avoue, comparé à certaines, je suis loin d'être la plus malheureuse du monde, hein, clairement. Du coup, mais tu te dis, j'ai eu tellement d'histoires qu'on t'a racontées que du coup, tu te dis...
Tu te protèges, quoi.
Ouais, ok, on attend. Ouais, puis tu te dis, on va faire la prise de sang, déjà, hein. Puis on va voir. Tu connais le risque de grossesse extra-utérine, de trucs comme ça. T'as tout ça en tête, en fait. Mais du coup, c'est dommage parce que ça te gâche un peu le côté genre... Ouais.
J'avais envie de le crier sur tous les toits, moi. J'avais envie de le crier sur tous les toits.
Ah non, mais nous, pareil. En fait, le truc, c'est qu'on s'est dit, mais d'une façon ou d'une autre... Alors ça a été nous... c'est marrant parce qu'en fait, on était du coup dans la famille de mon blond. Au début, j'étais là, attends, on va faire la prise de sang avant de dire quoi que ce soit. Donc, on a fait la prise de sang. Mon médecin a été fabuleuse. Elle est en vacances en Espagne. Elle nous a envoyé une ordonnance par texto. C'était incroyable pour ça. Merci mille fois. C'est un amour. Elle a été au top. Enfin, c'était génial, quoi. Elle nous a envoyé direct une ordonnance par texto aussi pour la progestérone, du coup, pour éviter que, parce que j'avais pas pris ma progestérone, évidemment, vu que j'attendais mes règles. Donc voilà, la pharmacienne, pareil, adorable. Normalement, ils ont pas trop le droit, qui nous a dit, logiquement, avec de la progestérone, je sais pas ce que tu peux faire d'autre que ça, mais bon, qui nous a quand même filé de l'utrogestan, pour ne pas citer son nom. du coup, ça, c'était cool. Et en fait, on s'est posé la question de le dire ou pas. Et en fait, on a des amis qui devaient passer 2-3 jours avec nous. Je l'ai dit tout de suite à mon ami, parce que ça, j'en pouvais plus, j'avais besoin de le dire à quelqu'un. Chialer avec moi, c'était trop beau. Et en fait, il nous a dit, mais vous savez, en fait, les gens qui vous aiment, ils sont dans le même état que vous. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pareils, ils disent rien, mais en fait, ils vivent le truc avec vous. Et en fait, que tu le perdes ou pas, de toute façon, tes parents, tu vas leur dire. Moi, clairement, j'aurais perdu le bébé, j'aurais appelé ma mère en pleurs. Enfin, tu vois, c'était évident et je leur ai dit aussi. Donc, en fait, pourquoi pas leur dire tout de suite qu'ils se réjouissent avec vous. Et en fait, j'ai trouvé que c'était effectivement très intelligent. On l'a dit assez rapidement, on a attendu un jour, je crois, on l'a dit à mes beaux-parents, et en fait, on a attendu d'aller en vacances chez mes parents pour leur dire. Mais je vois, c'était comme si c'était les vacances, on voyait tout le monde un peu, et voilà, ma grand-mère aussi, enfin, on a un peu semé la bonne nouvelle à droite à gauche. J'ai juste attendu avant de le dire sur les réseaux sociaux, parce que comme j'avais fait une petite BD où je racontais un peu ma vie, les gens savaient pas mal que je galérais. Et je voulais juste être sûre, là, pour le coup, en me disant, avant de le mettre sur Internet, parce que j'avais pas forcément envie de faire l'annonce. Ah bah non, finalement, ça a pas marché. Enfin, voilà.
Non, mais c'est bien.
Du coup, voilà.
Bon, super. Bah, écoute,
Je suis très
non, mais c'est génial, c'est génial. Donc du coup, grossesse qui se passe tout nickel.
Alors là où on a eu de la chance, c'est que du coup en appro, en fait, ça doit être comme la PMA, t'es suivi comme de l'eau sur le feu, c'est-à-dire qu'en fait, t'as tout de suite une échographie pour vérifier le sac embryonnaire, que c'est pas une grossesse extra-utérine. Enfin bon, pour la FIV, évidemment, c'est pas une grossesse extra-utérine, mais là en l'occurrence, c'est ça que j'ai apprécié, c'est que du coup, t'es quand même vachement stressé parce que t'as mis du temps, t'as envie d'être sûr que tout est bon, mais comme tout le monde, mais du coup, nous, on a un peu la priorité et ça, c'est chouette. Il y a l'écho tout de suite pour vérifier que le sac est là, qu'il y a pas, c'est pas un œuf clair, par exemple. Genre, t'es enceinte, mais en fait, il y a rien. Donc, tout de suite, tu vois, on a fait l'écho, tout de suite, on a été rassurés. C'est-à-dire qu'en fait, on est rentré juste après nos vacances en août, on a fait l'échographie mi-août, quoi. Donc,
D'accord. Donc
top. Bon, on voit pas à ce moment-là, mais suffisamment, on avait même entendu le cœur à ce moment-là, donc c'était chouette, alors qu'il y avait pas mal de risques qu'on n'entende rien. Donc ça, c'était cool. Et donc, j'étais suivie à Necker. Et en fait, pour la petite blague, à la deuxième échographie, j'ai la sage-femme qui me faisait l'échographie qui fait « Ah, attendez, bougez pas, je vais appeler le chef de service. » Là, tu te dis « Merde, non mais vous inquiétez pas, super. » En fait, en l'occurrence, il y avait un kyste dans le placenta, donc a priori rien de grave et super fréquent, mais en fait, ils sont toujours un peu inquiets parce que si le kyste se met à côté du cordon ombilical, bah grosso modo tu peux avoir des problèmes d'échange entre la mère et le bébé, et voilà. Mais en l'occurrence, du coup, grâce à ça, j'ai eu droit à des échos tous les mois, donc ça c'était cool. Et voilà, mais sinon le reste de ma grossesse, c'est une grossesse tout à fait lambda, malade comme un chien pendant 3 mois, ça, voilà, hein, force et honneur les femmes, ce qu'on dit. Ah ouais. Et puis voilà, mes fins de grossesse idylliques, tout le monde me disait oh tu dois avoir hâte d'accoucher, je dis non, moi ça va en fait. J'avais hyper peur d'accoucher. Et au final, j'avais vachement peur, en fait. C'est marrant. Je connaissais pas. Et du coup, j'avais vraiment peur de souffrir. On en a tellement chié, en fait. J'ai tellement souffert avant que tu me disais, putain, encore. Mais en fait, en l'occurrence, ça c'est très, enfin, ça c'est, non, mais j'ai pas un mauvais souvenir. Ça s'est pas très bien passé, mais j'en ai pas un mauvais souvenir du tout. Donc,
Génial. Bon, écoute, et ben, en tout cas, félicitations. Donc, là, Bertie, elle a 2 ans, 2 ans et demi, c'est ça?
2 ans et demi, elle va avoir 3 ans d'avril.
Ah ouais, d'accord. Ok, parfait. Alors, question, peut-être un petit peu logistique, mais comme la naprotechnologie est pas forcément très connue ni répandue en France, est-ce que, comme tu as quand même recours à un médecin, est-ce que c'est un parcours qui est complètement pris en charge par la sécurité sociale ou pas complètement?
En fait, tu payes l'institutrice, bien évidemment, puisqu'elle travaille. Tu la payes quand tu vas la voir. Ça, évidemment, c'est pas remboursé par la Sécu. Le médecin est remboursé par la Sécu, en revanche, comme un médecin normal, en fonction de tu vois, voilà, un médecin généraliste, tu le payes le même prix, et c'est juste que tu vas le voir dans le cadre de la NAPRO, et voilà. Mais c'est, pour le coup, ça s'est pris en charge. Et puis, après, le reste de ta grossesse, bah, comme tout le monde quand t'es tombée enceinte, quoi. Mais c'est pas du 100%, et puis, bah, les autres trucs, c'est pareil, c'est pas, tu vois, c'est pas en clinique, donc, tu vois, typiquement, mon endométriose, l'opération, ça a été mutuel, un peu sécu, un peu nous, enfin voilà. Ouais, c'est pas comme le parcours de PMA qui est vraiment pris en compte, je pense. Je sais pas trop, mais je crois que c'est quand même pris en charge par la sécu complètement.
Ouais.
Mais c'est pas non plus des sommes exorbitantes, hein, clairement. Donc c'est juste que ça m'a fait du bien quand j'ai été enceinte et que j'étais à l'hôpital et que je n'ai pas payé aucune échographie. Je me suis dit qu'on avait vraiment de la chance avec notre hôpital public et notre système de santé. Parce que quand tu passais là, c'est vrai que c'était assez chouette de ne rien avoir à avancer, en fait. Parce que sinon, effectivement, les échographies de suivi, etc., moi, je les payais. Alors, j'étais remboursée par ma mutuelle ou d'autres trucs, tu vois. Mais c'est aussi à prendre en compte, effectivement. Mais bon, je pense que les instructrices, enfin, c'est des questions à poser, justement. Avant de commencer, tu appelles, en fait, tu peux aller sur le site et tu peux appeler une instructrice à côté de chez toi et elle donnera toutes les informations. Parce que moi, j'avoue, j'ai dit des trucs comme j'avais vécu, mais ça a peut-être changé encore aujourd'hui ou voilà. Et puis voilà, toutes ces informations là, je pense que le mieux c'est d'appeler pour avoir les informations et puis voir si c'est quelque chose qui peut convenir ou pas. Hein. Chacun est différent et
bon, voilà. Super. Une autre question. Donc tu disais que Monsieur Leblond était super moteur de tout ça. Donc du coup, tu m'as dit que vous êtes mariée en 2012, c'est ça? Et
ouais.
Bertie est née en 2017, ok. Et du coup, en fait, est-ce que tu aurais des conseils à donner sur comment est-ce qu'on prend soin de soi et de son couple dans ces parcours qui sont quand même assez logiquement aussi?
Bien sûr, ce qui est évident, c'est se garder des temps à deux, en profiter au maximum, justement. Alors ça, c'est le truc horrible qu'on dit, enfin, que t'entends tout le temps quand t'es en couple. Profitez-en,
allez,
vous êtes tous les deux. Non, mais c'est ça. Mais en vrai, c'est vrai, pas dans le sens où vous avez de la chance, vous pouvez le faire. Non, en le sens, en fait, vous galérez tous les deux. C'est important aussi même si on continue à y penser tout le temps, c'est important de faire des trucs sympas et justement de garder du temps pour son couple. Maintenant, clairement, on n'est pas un couple modèle, hein. On s'est aussi engueulé, c'est arrivé, mais c'est important de se soutenir là-dedans. Et puis nous, on a assez vite ressenti le besoin, nous, de trouver des trucs où, en fait, pouvoir rencontrer d'autres personnes qui étaient dans notre cas. Ça dépend aussi des caractères, hein. Nous, vraiment, on avait besoin de partager. Du coup, on a un peu cherché autour de nous et on a rencontré des gens. Alors, t'as les amis d'amis, en fait, et ça te fait trop du bien de parler. J'avais un groupe sur Facebook de nanas, en fait. Il y avait des mecs aussi, mais très peu. C'est quand même beaucoup plus les femmes qui parlaient. Où on pouvait partager la fois où ta cousine t'a annoncé qu'elle était enceinte sans aucun ménagement ou des trucs comme ça. Je dis ça, hein, c'est pas pour mes cousines. Hein. Mais c'est un exemple où tu vois, à Noël, où personne fait gaffe à toi, où on te cale avec les célibataires limite parce que t'es juste un couple et que t'as pas d'enfant et que t'es pas prioritaire ou des trucs comme ça. Ou peut-être l'identibilité que tu peux avoir, et ben en fait c'était un groupe où on pouvait se lâcher en disant il m'est arrivé ça, je suis hyper énervée. En fait tu pouvais vraiment vider ton sac et personne te juge et en fait c'est hyper chouette et toutes les autres sont comme toi en fait. Et du coup ça, moi ça m'a fait vachement bien. Et puis en couple en fait on avait nous on est chrétiens. Du coup, on a un peu accès à là-dessus. Alors, chacun fait bien comme il veut, mais je suis sûre qu'il y a d'autres trucs complètement laïques, des groupes en fait de gens comme ça. Nous, on a trouvé un groupe dans une paroisse en fait où il y avait. Ça n'avait rien à voir avec la religion après parce qu'on parlait juste de ça. Mais il se trouve que c'était dans une paroisse et du coup, ça nous allait bien. Où du coup, on se retrouvait entre couples ayant eu des difficultés. En espérant un enfant comme on dit. Et en fait nous on avait vraiment besoin de ça. Nous ça nous a fait beaucoup de bien en fait, des groupes de partage, de rencontrer d'autres couples qui vivaient ce qu'on vivait, qui comprennent en fait. Je dis souvent en rigolant que j'ai compris à ce moment-là l'intérêt des alcooliques anonymes. Mais c'est vrai, d'un point de vue extérieur, tu trouves un peu ça voilà, tu vois les trucs américains avec bonjour, je m'appelle machin, j'ai ça comme problème dans la vie. En fait, tu te dis mais en fait, c'est hyper important. Tu as besoin d'avoir des gens qui vivent la même galère que toi, que ce soit ça ou autre chose quoi. T'as besoin d'avoir des gens qui comprennent ce que tu vis, qui comprennent, qui peuvent s'énerver avec toi, enfin, à qui tu peux parler de ça, même si tes amis sont hyper gentils, hyper bienveillants. Ben, il y a des moments où quand t'es en colère parce que t'arrives pas à avoir d'enfants, t'arrives même inconsciemment à leur vouloir d'en avoir, alors que ils y sont pour rien, les pauvres, quoi. Mais voilà.
Donc, ok, bah écoute, un super conseil. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à Claire qui se lance et qui décide qu'elle est prête à devenir maman en 2012? Qu'est-ce que tu aimerais te dire maintenant avec le recul?
J'aimerais lui dire pleure pas trop, va, ça va bien se passer. Mais bon.
Très bien.
Ouais, en fait, le truc qui est hyper dur, c'est que, à l'époque, moi, ce que je me disais toujours, mais un peu comme quand t'es célib et que tu te dis que tu rencontreras jamais personne, c'est que tu te dis, si on me disait, là, à telle date, t'auras un bébé, je serais prêt à attendre 10 ans. Parce qu'en fait, ce qui est hyper dur, c'est que c'est l'incertitude. C'est de te dire, moi, il y avait certaines fois, je me disais, mais ça se trouve, je serais la maman de personne, jamais. Et ça me flinguait. Alors qu'en fait, en vrai, si je peux remonter le moral de toutes celles qui sont dans ces cas-là, toutes mes copines de galère, que ce soit par l'adoption ou PMA ou NAPRO, ont réussi à avoir des enfants. Alors voilà, c'est pas forcément naturellement, mais elles sont toutes mamans aujourd'hui et c'est hyper chouette. Donc il y a de l'espoir en fait.
Ouais. Bon, c'est une belle conclusion ça, super. Merci beaucoup Claire.
Mais c'est Gandhi Claire qui parle, tu vois.
Non mais écoute, vraiment je te dis un grand merci d'avoir pris le temps de raconter ton histoire. Tiens-moi au courant du coup pour la sortie de ta BD, je la partagerai sur le compte du podcast. Et écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Bah en deuxième un jour, mais sinon juste de vivre longtemps, heureuse, en famille, voilà.
Très bien.
Moi je suis heureuse. Je suis comblée, j'ai eu ma vertie. En vrai, j'aimerais bien d'autres, mais il y a un côté, j'ai tellement cru que j'en aurais jamais d'autres que, voilà, j'en espère un autre, mais je suis quand même heureuse et je profite de la vie. Et voilà, donc, plus que ma famille aille bien et que moi j'aille bien, et voilà. Et
bah, écoute, c'est tout ce que je souhaite. Aussi. Merci beaucoup, Claire. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast. J'espère qu'il vous a plu. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram Alors c'est pour bientôt podcast ou sur le site internet alorscestpourbientotpodcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
Hold up. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.